Votre émission sur RMC avec Pluto TV. Plus de 130 chaînes gratuites en streaming. Pluto TV, streamer, c'est gratuit. Vous écoutez
RMC.
Et but.
But de Basile Boli sur ce corner.
Avec Nana, appelle les stars, la Bruno Escobar.
Et c'est fini. L'Olympique de Marseille a remporté la Coupe Europe des clubs champions.
N'oublie jamais d'où tu viens.
La rue, c'est mon terrain.
Oh là là, c'est un récital. Les Brésiliens sont en blanc. Amédi Pollet. C'est un but fabuleux.
Dans le foot, les affaires, le rap, les ministères, c'est toujours
le gangster
qui contrôle l'affaire.
Centre de Pelé vers Papin qui dévie habilement vers Chris Waddle qui reprend. Et but fantastique à Chris Waddle.
C'est beau la vie.
Ouais, c'est beau la vie.
Alors, vendredi. On fera le 26 mai.
Bon, ça.
Et le 26 mai, ce sera donc les 30 ans de la victoire de l'OM en Ligue des Champions face à Milan. À cette occasion, le Super Moscato Show sera en direct de Marseille pour fêter cela. Eric Dimeco et d'autres légendes de l'OM seront là entre 15h et 18h. Et durant les célébrations, il y aura des pensées inévitablement pour Bernard Tapie, le boss de l'époque qui nous a quittés donc en octobre 2021. Le succès, bon, c'est clairement le sien. Alors, êtes-vous nostalgique des présidents à la Tapie dans le foot? 32-16, appelez-nous pour en débattre. Aurélien Tiersin nous rejoint. Salut Aurélien.
Salut à tous.
Alors, il est replongé dans les plus belles sorties de l'époque Tapie à Marseille.
Ah, il savait très bien imposer sa manière de voir les choses, très bien le raconter également. Il arrive à l'OM à la fin des années 80. En face de lui, il y a Claude Bèze, le président de Bordeaux. Il y a Jean-Louis Campora, président de Monaco. Et voilà ce qu'il dit, ce qu'il fait en arrivant à l'OM.
Je pique Giresse à Bordeaux et Papin à Monaco.
Je viens d'arriver.
Ça veut dire, je viens de mettre ma main là en disant, c'est plus vous les tauliers, les mecs. Je sors Giresse, mais sortir Giresse de Bordeaux, c'était pas possible. C'était inenvisageable. Quant à Papin, il part de Bruges pour Monaco et je lui offre l'aventure dans un club qui a rien gagné depuis 17 ans. Mais Papin, il a un cœur comme ça. Je lui dis, je peux pas y arriver sans toi.
Mais voilà, c'est le taulier, il sait convaincre tout le monde, Tapie, et juste après, il s'attaque même à Maradona. À l'époque, c'est le numéro 1 au monde, il joue à Naples.
Moi, ce que je veux, c'est pas faire du show avec Maradona. Ce que je veux, c'est gagner la Coupe d'Europe. Mais je le veux. C'est pas je le voudrais bien. C'est je le veux. Et peut-être que Maradona, c'est un petit plus. Car malgré qu'il fasse 10 kilos de trop, d'après Thierry Roland, il a gagné la Coupe d'Europe l'année dernière, l'air de rien, avec ses 10 kilos de trop.
Ah, il faut travailler son physique avec Bernard Tapie. Autre duel iconique à Marseille, Tapie-Cantona. Il n'aime pas beaucoup qu'il jette son maillot de l'OM à terre lorsqu'il sort d'un match de foot. Et ça, ça plaît pas beaucoup au boss, évidemment.
La première année, ça se passe bien.
Oui, mais il jette son maillot.
Mais c'est fini.
C'est fini. Mais pourquoi il
jette son maillot? Parce qu'il a fait le mauvais garnement qu'il avait l'habitude de faire avec Giroud. Et avec moi, c'est interdit.
Ah, c'est l'anniversaire de Canto en plus aujourd'hui, on l'embrasse. Donc Bernard Tapie, ça rigole pas. Et ça rigole pas non plus quand il parle avec Audrey Pulvar sur un studio télé il y a quelques années.
On va parler de foot. Ça au moins, ça vous intéresse pas non plus. Bon, bah, écoutez.
Je parle de foot avec des gens qui connaissent le foot.
D'accord.
Voilà, pas avec vous, je vais parler quoi. Vous parlez avec le mec à l'oreille.
Bon, j'espère qu'il aurait parlé un petit peu avec nous, monsieur, de football. Oh,
pas sûr, avec
tout le monde. Il aurait parlé de nous ou pas?
Merci Aurélien.
Ouais,
alors messieurs, est-ce que vous êtes nostalgique des présidents à la Tapie, Jérôme?
Oui. Oui, nostalgique, mais pas que de Bernard Tapie, parce que moi j'étais plus gamin et en effet tout ce qu'a mis en avant Aurélien, je m'en souviens très bien et ça marque les esprits forcément. Mais j'ai eu la chance d'avoir des présidents charismatiques et surtout un, c'était, et Aurélien l'a cité, ou toi, c'est Jean-Louis Campora. Et Jean-Louis Campora, c'est pas du tout le même style de personnage que Bernard Tapie, ça c'est une certitude, et j'ai beaucoup échangé. Avec Bernard Tapie aussi, parce que ça reste un homme fort dans le football, et même tout ce qu'il a entrepris, c'était un homme brillant dans tous les cas. Et Jean-Louis Campora, moi j'ai eu la chance de l'avoir comme président, il n'avait pas besoin de parler tout le temps, mais quand il venait, je peux te dire qu'on rigolait pas. Il y avait du respect, il y avait deux, trois phrases, ça suffisait, pas des longs discours. et il y avait surtout un respect du club, l'institution. Il dégageait ça. Du moins, souvent on dit l'identité du club, l'âme du club, c'est les supporters. Non, mais ces présidents là, ils dégageaient ça en fait, juste simplement. Et quand tu signais le contrat, tu savais où tu mettais les pieds. Tu savais qu'à Monaco, t'avais plein d'avantages, beaucoup, mais derrière, il fallait pas faire de bordel, il fallait pas faire de fausse route, parce que tu avais le droit à faire une erreur, mais la deuxième, elle pardonnait pas. Et je pense que Bernard Tapie, tout ce qu'on a vu, c'était un petit peu ça. Sur Cantona, c'est exactement ça. Et moi, je suis nostalgique de ça, parce qu'aujourd'hui, des présidents où c'est leur club, c'est vraiment, ils prennent ça en eux.
Certains, dont c'est l'argent qui est investi. Oui. Il y en a pas beaucoup. Ben
c'est pour ça. Donc le dernier en date, c'était Jean-Michel Aulas. Après
ouais.
Moi, j'aurais, il est.
Quand même, c'est Laurent Nicolas, Jean-Pierre Caillot.
Jean-Michel Aulas est moins charismatique que les Campora, les Claude Béz les Bernard Tapie et j'en passe. Mais n'empêche que c'était un président un petit peu comme ça, qui allait dans ce sens-là. Moi, je regrette juste les dernières années parce qu'il était à côté de la plaque sportivement. Mais avant, c'était fantastique ce qu'il mettait en place. Le sportif primait. Et avec ces gens-là, avec ces personnages-là, c'était le sportif qui primait avant tout.
La différence, Captain, aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de présidents délégués.
Exactement. Eh oui, ça n'a rien à voir. C'est pas le Roseille. Et donc, pour la plupart. Pour la plupart, c'est pas, même si la situation de Jean-Michel Aulas était un petit peu exceptionnelle. Mais les autres, Campora était l'un des responsables du gouvernement monégasque, je crois, à l'époque.
Il était premier ministre.
Voilà. Et puis Roger Rocher n'a jamais été salarié, encore moins que Nicolas. Ou moi, j'en cite encore un parce que je l'ai eu, ça a été mon dernier président en tant que footballeur professionnel, c'était Francis Borrelli qui était.
C'est ce que j'allais dire.
Ces gens-là, ils avaient quelque chose, c'est que. Putain, ils aimaient le football. Et je vous assure, ils adoraient. Et c'est pas par hasard que j'ai cité Francis Borrelli à la fin. Mais le jeu, ils aimaient le jeu. Ils aimaient les joueurs. Ils aimaient leur club. Pour eux, c'était viscéral. C'était dans les tripes. Et effectivement, c'était des gens qui ont dépensé beaucoup d'argent, que ce soit eux ou Daniel Echter, même dans un style différent au Paris Saint-Germain. Mais aujourd'hui, on ne retrouve pas ça, parce que, et oui, tu le sais, Jérôme, tout est aseptisé, tout est cadré, tout est ceci, tout est cela. Là, il y avait quand même les joutes mémorables entre Claude Béz et Bernard Tapie, ce qui ne les empêchait pas de faire des bonnes affaires entre eux, hein.
Mais bien sûr.
Mais ils étaient, comme l'on dit, d'excellents clients. Et quand moi je raconte les histoires de Nicolin qui venait de Loulou Nicolin qui venait de se faire mettre un examen pour une histoire à la Réunion et qui arrive sur le bord de la touche avec Tapie lors d'un Marseille-Montpellier et qu'elle lui disait mais qu'est-ce qui t'arrive Loulou? Ben, je viens de m'être mis en examen. Combien t'en as toi? Une, disait l'examen. Nanar, 15. Il disait 15.
Alors, oui, parce que Jean-Michel, on n'oublie pas quand même les affaires, ce qui s'est passé à la fin avec Bernard Tapie. Ce dont on parle là, c'est le management, la gestion des hommes,
charisme,
qui, pour le coup,
c'est
évidemment qu'on n'est pas pour les affaires.
Bien sûr.
Mais Jean-Michel, c'est Valenciennes, et de Milik qui était parti, qui était arrivé avant de partir.
Milik,
tu sais, Jean-Michel, t'as dit un truc très, très juste et je ne l'ai pas dit et je regrette de ne pas l'avoir dit en priorité parce que c'est exactement ce que je pense de ces personnages-là. Je sais pas, Manu, ce que tu en penses aussi. C'est le côté passionné, amoureux du football déjà, et amoureux des joueurs. Et en fait, c'est ça qui manque aujourd'hui.
Il
n'y
a pas
très clairement.
Il y a pas que ça qui manque. Alors moi,
ça c'est important.
Manu Petit. Il y a tout. Je n'aimais pas tout du côté de Bernard Tapie, bien évidemment, puisque j'en étais là une des principales victimes également. Dans notre lutte à chaque fois à gagner le championnat de France, mais qu'il repose en paix. J'ai pas envie de rouvrir ce chapitre-là. Tout le monde le connaît.
Des livres sont disponibles.
Exactement. Donc, pour moi, il y a prescription et la page est tournée. Le livre est fermé. En revanche, sur ce qui me manque réellement, c'est en dehors de ce que vous avez dit, les garçons, le côté passionnel, ce lien justement indéfectible qu'il pouvait avoir avec les supporters, c'est le côté sulfurique qu'on pouvait amener justement avec Bordeaux, avec l'Olympique de Marseille, mais qui se pouvait en plus se générer à travers les joueurs. Moi, je me rappelle
de
certains rendez-vous en équipe de France où tu avais un vestiaire qui était composé essentiellement des joueurs.
Je suis nostalgique
parce que tout est devenu tellement neutre.
On disait que c'était une catastrophe.
Mais regardez
les Marseillais contre les Parisiens pour l'équipe de France.
C'était la poudre, ça fait la poudre, le sang, la sueur. C'était tout ce que définit justement le football, le côté passionnel. Il y avait des fumigènes dans les stades aujourd'hui.
Non, mais attends, Manu, ça, ok,
le problème, c'est que vous voulez une société aseptisée.
Non, pas du tout.
Non, mais c'est la génération. C'est quoi cette émotion? Ces gens-là apportaient ces émotions.
N'écrivez pas l'histoire totalement. Que les rivalités entre clubs sont indispensables pour vendre les championnats et tout ça, ça fait partie du foot, ça je suis d'accord. Mais en équipe de France, pendant des années, on a entendu, c'est une catastrophe les Marseillais.
Mais regarde l'Espagne avec le Barça et le Real.
À l'époque, bravo à Aimé Jacquet d'avoir réussi à calmer les choses, qu'il y ait plus cette rivalité en équipe de France.
Non, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire qu'à travers leur président charismatique, à travers justement la rivalité qui pouvait opposer certains clubs, ça pouvait justement redescendre au niveau des joueurs. Et je me rappelle les avant-matchs ou deux ou trois jours avant les matchs, la pression incroyable qu'il y avait dans la presse.
Les matchs,
on s'envoyait de la sulfateuse en permanence. Ah, c'était une guerre de communication. On s'insultait, quoi. C'était un truc de fou. Mais au final, on réglait les comptes sur le terrain.
Voilà.
Ça bastonnait, ça envoyait du lourd sur le terrain. C'était, mais vraiment, c'était un combat sans nom. Aujourd'hui, je me fais chier. Oui, excuse-moi.
Les anecdotes sont fabuleuses.
Tu me diras, tu t'ennuies.
Je m'ennuie. Seul qui reste, c'est Jean-Pierre Caillot. On a une pensée pour lui.
Oui, et Borrelli, rappelle-toi Borrelli avec sa sacoche quand il venait embrasser la pelouse.
Alors, Jean-Michel.
Non, mais dans ce cadre-là, il y en a un qui était fantastique. Moi, je me régale quand il avait les cheveux bleus et qu'il était face à la tribune avec ses joueurs. Lorsque
Loulou Nicolas,
lorsqu'il a gagné la finale de la Coupe de France avec les cheveux bleus, bleu et orange, c'était
pleurait le gars.
Un grand moment. Moi, je me suis fait raconter par Michel Mézy. Lorsqu'ils ont été champions de France,
là c'était la crête orange
avec Giroud et que au Massin Gabriel au repas de qui fêtait le titre, il y a le capitaine qui est allé demander une prime exceptionnelle à Loulou Nicolin pour le titre de champion de France. Le reste, je vous le raconte pas parce que je suis incapable. Quand Michel Mézy me raconte la réaction de Loulou Nicolin. Mais c'est un sketch qui digne des meilleurs sketchs des inconnus.
Raconte-nous, qu'est-ce qu'il lui a dit?
Parce que ça s'est terminé avec des assiettes qui volaient, partaient toutes de la position stratégique qu'occupait.
Mais pourquoi il a pas le droit de demander une prime de titre de champion?
Ben oui, il a demandé la prime, mais je pense que Loulou Nicolas n'était pas disposé à la donner.
Voilà.
Donc il a dit que vous voulez la prime.
Avec ses mots en plus, j'imagine très bien.
J'ai un vol d'assiettes qui est parti dans le Massin Gabriel.
Voilà la prime. Hop.
Voilà la prime.
On va continuer le débat dans une seconde.
Ce sont des personnages hors pair.
Michel sera là au 32-16, lui aussi est nostalgique. Êtes-vous nostalgique des présidents à la Bernard Tapie? Le débat continue dans Rotten sans flamme, à tout de suite.
RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
19h18 sur RMC, toujours dans Rotten sans flamme. On continue nos débats sur les entraîneurs, sur les présidents charismatiques, oui, qui nous manquent forcément. On est avec Manu Petit, avec Jean-Michel Larquet et avec Jean-Louis Tour. Jean-Louis, donne-nous la suite de la dernière heure.
On va parler d'Arsenal. Manu, ça va te faire plaisir. À 19h30, les Gunners peuvent-ils s'en vouloir dans la course au titre qui se sont effondrés depuis deux mois? 32-16, montée sur le ring des supporters pour participer au débat. On est sur les 30 ans d'OM Milan. Ce sera vendredi. Êtes-vous nostalgique des présidents à la Tapie? Michel nous rejoint au 32-16.
Salut Michel.
Salut. Salut les gars, ça va?
Bienvenue
ça
Michel.
Va bien.
Bah ouais, écoute, on est en pleine forme. Alors qu'est-ce que tu penses de notre débat là? Les présidents charismatiques,
ils manquent. C'est plutôt sympa. Vous revisitez un pont du football français qui sentait un peu différemment. Moi j'ai 61 ans et la chance que j'ai eue, parce que pour moi c'est une chance. Je suis à l'époque, je suis de Montfermeil dans le 93, moi.
D'accord.
Et on a un club de foot avec une pelouse magnifique. Et il y a l'entraîneur des seniors, c'est un mardi soir. Il jouait à 4-600. À l'époque, c'était des 604. Je vais vite refumer à rentrer dans le stade. Et je vois sortir un mec avec un grand manteau Adidas, Bernard Tapie, qui vient en tant que, à l'époque, il est ministre de la ville et il met en place un forum des citoyens, si je me gourre pas, c'est ça, où il va générer un petit peu dans les cités un programme sportif, enfin un programme social, éducatif et pédagogique par le sport. Et donc, il vient au stade de Montfermeil, bref, et on commence à parler, il parle de la pelouse qui est meilleure qu'au stade Vélodrome, enfin, comme si on se connaissait depuis 25 ans. Et un super contact, bref. Et je me retrouve un mercredi après-midi en train de faire des sélections, des détections, parce qu'il a promis d'emmener 10 gamins à Marseille. Donc on fait des détections en veux-tu en voilà. Je suis à côté de Michel Hidalgo, qui est pour moi l'entraîneur qui a été champion d'Europe avec l'équipe de France. Donc c'est pour moi un grand moment aussi, un mec extraordinaire d'ailleurs au passage. Hein, Michel, vraiment super mec. En tout cas, moi j'en ai un nouveau souvenir super chouette. Il nous va faire des détections, bref. Et puis le volet plutôt sympa, déjà d'une part, c'est qu'il nous a amené le variété au complet avec le carré magique à Montfermeil. Et deuxièmement, il nous a invité, enfin moi, il m'a invité pendant une semaine à Marseille en immersion totale dans le club.
Ah ouais.
À l'époque, où c'était franchement, bon déjà, footballistiquement parlant, quand vous voyez les garçons à l'entraînement, Jean-Pierre Papin qui travaille devant le but et tout ça, c'est pas ce que disaient Thierry Roland et Jean-Michel à la radio, enfin à la télé, c'était pas des bêtises, hein, quand on savait qu'après les entraînements, ils s'entraînaient.
Non, non, je disais pas de bêtises.
Ouais, c'est important de le préciser, non, Michel. Jean-Michel, t'as raison.
Jean-Michel, il a jamais
dit
de bêtises d'ailleurs.
Ouais. Thierry Roland non plus, Michel, bon. Attends.
Comment ?
Mais Thierry Roland non plus.
Non, à Thierry Roland non plus d'ailleurs. Et mais pour vous dire franchement, et j'ai découvert un homme extraordinaire qui m'a fait partager des moments super chouettes à l'ancienne, capable d'intervenir dans les séances d'entraînement, de prendre les joueurs devant l'entraîneur.
Ah, ils aimaient le football, ils aimaient partager, voilà, ils aimaient partager.
Mais alors, on est tous nostalgiques, ça, il n'y a pas de souci, mais alors pourquoi ça n'existe plus aujourd'hui? Ben, on a parlé de l'argent, des présidents délégués tout à l'heure aussi. Est-ce qu'il n'y a pas l'évolution de la société aussi?
Bien sûr, Jean-Louis, je vais te raconter une anecdote qui est aujourd'hui impossible.
Oui.
Impossible. Essaye de la transposer avec d'autres personnages. Il y a, à l'époque, il y a le président qui a précédé, bien avant Bernard Tapie, à l'Olympique de Marseille, s'appelait Marcel Leclerc.
Ouais.
Il vire Lucien Leduc, alors que Lucien Leduc est en tête avec l'Olympique de Marseille.
Mmh.
Le lendemain, tu sais qui est-ce qui dirigeait l'entraînement en short et en maillot de l'OM ?
Leclerc.
Lucien Leduc. C'était Marcel Leclerc.
Ah, oui.
Est-ce que tu vois Nasser El Khelaifi virer Ancelotti et mener la
Il y en a un que je vois faire ça, c'est Valdemar Quitta.
Ouais.
Qui serait capable.
Il l'a dit, hein. Il a dit qu'il s'était posé la question d'entraîner un jour.
Ouais.
Pour voir que.
Ouais, mais
Jean-Michel, je te trouve trop catégorique. En fait, pour toi, c'est peine perdue. Moi, je reste persuadé que d'avoir des hommes à la tête des clubs, président délégué ou pas, ou si c'est ton argent, bon, là, de moins en moins, parce qu'il y a beaucoup de fonds d'investissement aujourd'hui. Mais n'empêche que le président délégué, quel qu'il soit, il peut aussi avoir la passion du football, remettre ça au goût du jour, défendre les couleurs de son club. Peut-être que je vis dans un autre monde, mais moi je reste persuadé que tu peux avoir, il y a ce côté-là un petit peu qui transpire chez Pablo Longoria. T'as l'impression que il a un pouvoir en lui. Il s'est identifié assez vite à ce que les gens. Non, attention. Non,
il manque un truc, Jérôme. L'attachement aux joueurs.
Je vais pas.
Mais Longoria, il a aucun attachement aux joueurs. C'est là où tu allais en venir.
C'est exactement là que je voulais venir, parce que en fait, il a certains côtés qui sont bien pour le foot et qui font du bien au football, et ça fait du bien d'avoir des mecs comme ça. Après, il y a des manques aussi, et l'attachement aux joueurs, alors même si c'est une autre génération, et en effet moi j'ai des enfants qui ont un certain âge, qui sont adolescents, donc c'est pas la même génération que nous. On est d'accord, donc ils sont en avance sur plein de choses, c'est pas les mêmes respects, c'est pas les mêmes codes, mais ce qui est sûr, c'est que là on parle de football, on est dans une bulle dans le football. Le directeur sportif, quel qu'il soit dans le club, il doit aussi amener ça, cet amour du club, l'amour des joueurs.
C'est plus possible.
Tu peux pas. Quand t'es un directeur sportif, un président, tu peux pas aimer tes joueurs.
Non, c'est pas ça. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est que on vit dans un monde aujourd'hui où qui est complètement déconnecté, où chacun est replié sur lui-même, où il y a plus de fraternité, il y a plus d'empathie envers l'autre. Les gens se font défoncer en permanence par une majorité de gens qui sont bien cachés derrière l'ordinateur.
Tu peux pas essayer de faire changer les choses.
Dans le foot aujourd'hui, cite-moi un cite-moi un club où tu as encore un président qui puisse transcender ça, même à travers la direction sportive, où même les joueurs eux-mêmes n'ont plus cet amour du maillot, justement.
Il y a raison.
Il n'y a plus de joueurs qui restent dans les clubs aujourd'hui.
Bah, regarde à Lens. Lens, c'est un peu ça, ce qui dégage. Non, mais je sais pas, moi, je vous pose une question comme ça.
Je pense que c'est un des rares clubs qui a gardé sa dimension humaine.
Donc, quant à ça, tu y arrives?
Bah oui, la preuve qu'ils ont des résultats.
Non mais d'accord, mais bah, ça veut
Montpellier
pas.
Aussi, on peut citer.
Montpellier,
mais
je pense.
C'est devenu, mais des minorités. Reims,
c'est vrai.
Avant, c'était des majorités. Il y a 20-30 ans, aujourd'hui, c'est de la minorité.
Oui, mais écoute, je regarde Strasbourg pour remonter avec Marc Keller. Je pense qu'ils ont mis aussi beaucoup d'affectifs là-dedans.
Oui, bah ils ont monté 3-4 divisions avec une ossature,
Non, mais tu le fais pas. C'est pas du hasard. C'est pas le fruit du hasard.
On est d'accord.
Avec tout le respect que j'ai pour Marc Keller. Par exemple.
Oui.
Vraiment, c'est un garçon.
Normalement, la fin de la phrase n'est pas dingue.
Voilà,
comme
attention,
ça.
Ouais. Ouais. Avec tout le respect, il va lui mettre à taquet.
Mais avec tout le respect que j'ai pour Marc Keller, qui est le président du Racing Club de Strasbourg. Demain, Marc Keller, s'il a un acheteur, puisque.
Bah, c'est le cas en ce moment. Ouais.
Voilà, il vendra.
Oui, mais d'accord.
Loulou Nicolin, la paillade, il ne l'aura jamais vendu.
Oui, d'accord.
Vous voyez ce que la
différence. Mais Marc Keller, il n'est pas au club depuis 2 ans. Ouais, il a construit, ça fait quoi? Ça fait 7-8 ans maintenant.
Oui, oui.
Mais ça faisait 30 ans qu'il était.
Donc, je sais pas. Mais comme quoi, tu peux aussi transmettre, même avec cette nouvelle génération, des codes qui étaient des bons codes d'avant, quoi, tu vois. C'est pas, il faut pas s'avouer vaincu à chaque fois.
Il y a encore des joueurs qui ont cette mentalité. Là, je fais référence à ce qui s'est passé ce week-end en Angleterre avec le départ de Firmino. Oui. Vous l'avez vu comment il a été à la fin du match, quand il est rentré à 20 minutes de la fin, il égalise.
On n'a pas la même éducation.
Oui, exactement, capitaine. Non, mais même t'as des joueurs qui ont encore des valeurs qui sont ancrées intérieurement, de façon humaine, et qui tu sentais que c'était un déchirement pour lui de partir. Il s'est mis à pleurer. Il a été réconforté par les joueurs.
Mais tu crois qu'en France il y en a pas des joueurs comme ça?
Ce sont des minorités. Tu prends chaque club dans les effectifs, ce sont des minorités.
Ben il faut faire en sorte que ça soit plus des minorités.
Mais comment tu veux faire?
Comment tu veux faire? Ça veut dire que l'approche est différente. Le président, directeur sportif doivent avoir peut-être retrouvé un petit peu plus de.
Ça, c'est un message envoyé à la fille dans ses prochains, joueurs, les profils qu'il veut prendre.
Oui.
Jérôme, quand tu entends certains joueurs qui te disent au bout de 3 ans ou 4 ans, ah oui, l'année prochaine, je vais changer parce que j'ai fait le tour.
Le même capitaine, quand ils arrivent au club, ils marquent un but, ils embrassent les cuissons.
Moi, au bout de 13 ans à Saint-Etienne, j'avais pas fait le tour de la question. Ils font très vite le tour de la question.
Non, mais ça,
je vous rassure.
Les mecs, ils prennent les cuissons, ils l'embrassent et tout, alors que ça fait 2 mois qu'ils sont arrivés.
N'est pas spécifique au football professionnel, je vous l'ai dit.
Mais oui, mais bon, moi.
Allez, on arrête. Je vous débat. Merci.
C'est pareil. On consomme et.
Et
c'est du football.
Écoute, merci Michel d'être venu au 32.
Merci Michel.
Le témoignage était très intéressant. À très bientôt Michel.
Il est passionné, ultra passionné, amoureux du foot. Il en faut de plus en plus dans les clubs.
Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.